chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles.
Dans ces émissions spéciales de Bienvenue chez le roi, je vous propose de retrouver avec moi tout l'été les dames du Roi Soleil. Émilie Glory réalisera toutes ces émissions estivales pour votre plus grand plaisir, j'en suis sûre, dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.
L'allée du roi de Françoise Chandernagor nous entraîne aujourd'hui sur les chemins sinueux de la carte du Tendre. Il m'avait nommée Madame de Maintenon. D'une seule phrase, il avait désavoué les méchancetés de sa maîtresse, rappelé que je n'étais pas au service de la favorite, mais au sien, et récompensé par une élévation éclatante, la discrétion dont j'avais su faire preuve sous l'insulte. Madame de Maintenon, Madame de Maintenon. Déjà, dans tous les corridors, les paliers et les salons du château, tous répétaient le mot à l'envi. Des dizaines de plumes se plongeaient dans les encriers et couraient sur le papier pour compter à Paris, à la province, à l'étranger, le mot que le roi avait fait et ce qu'il fallait en conclure. Imaginez, supputer, subodorer. Dans son hôtel carnavalet, la vieille marquise de Sévigné cachetait pour moi son paquet. « Est-il vrai, ma chère bonne, que... » Il est vrai, dis-je à tous ceux qui m'interrogeaient, il est vrai que le roi m'a nommée Madame de Maintenon et que j'aurais des plus grandes complaisances pour lui que de porter le nom d'une terre qu'il m'a donnée. L'affaire revêtait un éclat d'autant plus grand que m'ayant donné un nom auquel je n'avais nul droit, le roi, pour ce faire, l'avait dû prendre à la famille fort illustre et brillamment alliée qui le portait encore. La sensation fut immense et l'aigreur de la favorite à proportion. Au vrai, je n'avais qu'un seul regret, ne point pouvoir me jeter publiquement aux pieds du roi pour lui marquer ma reconnaissance. Contrarier cet élan-là me bouleversait d'autant plus que jamais, jusqu'à ce jour, je n'avais éprouvé l'envie de m'agenouiller devant qui que ce fût. Bien que devenue sa maîtresse discrète, en présence du roi, je renforçais toujours cette retenue et cet air de respect qui m'était naturel. S'il ne me parlait pas, je ne me permettais pas de le regarder, fût-ce à la dérobée. Je montrais sur tout ce qui touchait à sa personne une froideur absolue, qui ne le cédait apparemment qu'à la déférence due à sa fonction. Pour tous les autres hommes, j'affichais une indifférence qui ne me coûtait d'autant moins que je l'éprouvais réellement. Avec cela, en tout, une modestie et une sagesse qui ne m'étaient point feintes, et un goût du spirituel qu'il me suffisait de faire ressortir un peu.
Hosanna in excelsis, benedictus.
que les prélats s'étaient donné le mot à la chapelle royale cette année-là, car Bourdaloue, ordinairement mesuré s'il le fallait, lança à travers la chapelle des phrases cinglantes comme des soufflets et se mit à son prêche avec une violence inaccoutumée que sa voix rauque de cathareux rendait encore plus âpre et étriante. Madame de Montespan enrageait et ne goûta pas tant que moi les discours du carême de cette année-là. Elle ne les prit pas non plus si aisément que le roi, comme chaque fois qu'elle croyait sa position menacée, son humeur s'aigrit. Au beau jour, je devais chaque année, et quoi qu'il m'en coûtât, l'emmener à Maintenon, l'assurer qu'elle y était la maîtresse et supporter qu'elle fît chez moi toutes ses fantaisies. Je dus même l'y cacher pendant de longs mois lorsqu'elle mit au monde ses deux derniers enfants, dont l'un vit le jour d'ailleurs dans ma maison. Il fallait la louanger sans cesse sur ses toilettes et sa beauté, la rassurer sur ses charmes et mettre la dernière main à ses boucles et à ses dentelles. Je m'occupais moi-même de ses aumônes et de ses meubles, à broder pour Clagny. Je la comblais de présents inutiles et singuliers que mon cousin de Villette rapportait de ses voyages au long cours. Singe, ananas ou perroquet, je l'amusais du dernier bavardage de la cour et du dernier ouvrage de la ville. Je lui souriais, je l'embrassais et je mourais d'envie de l'étouffer. Jusqu'à quel point était-elle dupe elle-même de ses manèges? Elle me donnait de grosses sommes d'argent pour faire arranger mon château à sa guise, m'imposa ainsi une ménagerie dont je ne voulais pas et mille autres extravagances qu'il fallut défaire ensuite. Elle m'offrait des jupes assez laides, des tableaux qu'elle n'aimait plus, des livres ennuyeux, me faisait avec cela compliment de mon esprit et de mon élégance, puis tout à coup, entre deux embrassades, me reprochait aigrement mes manières ou l'éducation que je donnais à ses enfants, et ne m'adressait plus la parole de 15 jours. Je me plaignais au roi. « Ne vous mettez pas en colère, madame, la colère vous sied mal et vous rend injuste, me dit-il. La marquise a cru bien faire. » Peut-être, sire, mais il lui faut surprendre toujours, ne point faire ce que font les autres et provoquer l'admiration. Des ours dans des lambris, une rocaille dans un appartement, une robe tout en diamants, des dromadaires pour porter ses bagages, 3 millions joués sur 3 cartes, des souris attelées à un carrosse et des enfants soignés au venin de serpent. Voilà qui est étonnant et qui mérite sûrement de passer à la postérité autant que les exploits d'Alexandre. « Je conviens, dit le roi en riant, qu'elle a plus d'imagination que de raison, mais elle n'est pas méchante. Et puisque de vous deux vous êtes la plus raisonnable, raccommodez-vous encore une fois, faites-le pour l'amour de moi. Vous êtes mon roi et mon maître, lui dis-je seulement, dans une profonde révérence. Et je fis une fois de plus ce qu'il voulait. » À l'été de 1677, je dus retourner à Barège et à Bagnères pour de longs mois afin de fortifier la santé de mon cher enfant. À mon retour à Versailles, je fus malade quelques jours de ces fièvres d'Amérique qui me prenaient à intervalles. Le roi vint prendre de mes nouvelles. « Sire, lui dis-je gaiement, je crois que je vivrai 100 ans. « Madame, reprit-il gravement, je crois que ce serait la meilleure chose qui me pût arriver. » Dans un sursaut de clairvoyance, elle fut en cette année 1679 reprise comme en 1674 d'un doute sur la nature de mon commerce avec le roi. « Vous cherchez à être la maîtresse du roi, » me dit Madame de Montespan un jour à sa toilette. « Cela crève les yeux. » « Madame, je vous assure que je ne le cherche point, » lui répondis-je avec sincérité, m'avouant intérieurement que je n'avais point en effet à chercher ce que j'avais déjà, et pratiquant ainsi la restriction mentale chère aux jésuites. Cette pratique qu'affectionnait le père de la chaise, le confesseur du roi, lui avait valu d'être surnommée la chaise de commodité par Madame de Montespan, que ses facilités de conscience indignaient non sans raison. « Vous écoutez trop vos ressentiments, » lui dis-je doucement pour apaiser son courroux. « Oh, je connais vos artifices, » reprit-elle, « et je ne suis malheureux justement que pour n'avoir point écouté mes ressentiments. Je vous ai nourri et vous m'étouffez. » Elle me reprocha ses bienfaits, ses présents, ceux du roi. « Allez, vous pouvez bien feindre d'être une gouvernante dévouée. Je sais sûrement que vous êtes la maîtresse du roi. » Je dis avec sang-froid et pour ne point mentir. « Il faut donc qu'il en ait trois. » « Mais oui, reprit-elle avec violence, moi pour le nom, cette fille pour le fait et vous pour le cœur. » On voit que quand elle voulait s'y appliquer, l'incomparable ne raisonnait pas si mal. Le roi m'avait à la surprise générale nommé deuxième dame d'atour de la dauphine. On formait déjà la maison de cette princesse de Bavière que le dauphin, alors âgé de 18 ans, devait épouser au printemps suivant. Et j'obtins dans cette occasion ce que je n'espérais plus obtenir après tant d'années, un emploi qui me libéra de la tutelle de Madame de Montespan. Cet emploi, outre qu'il était mieux qu'honorable, me fournissait un prétexte à demeurer à la cour, m'assurait un revenu réglé et me donnait enfin le droit à un appartement qui me fût propre. Si, pour ne point faire d'éclat, je conservais la même petite chambre à Saint-Germain, le roi me fit accommoder un appartement de plusieurs chambres à Fontainebleau et un autre à Versailles. L'un et l'autre furent placés de manière que le souverain pût me voir commodément. Aussi, ne s'en priva-t-il pas. Tous les matins, avant son dîner, il passait une grande heure chez moi. Tous les soirs, je passais depuis 8 heures jusqu'à 10 heures seul avec lui dans sa chambre. Monsieur de Chamarande m'y menait et m'en ramenait à la face de l'univers. Je ne sais auquel des courtisans la langue fourcha le premier, mais bientôt, on ne m'appela plus dans les antichambres que Madame de Maintenant. Madame de Montespan assurément n'était plus dupe de rien. Quand elle vit que je lui échappais, que l'amitié dont le monarque m'honorait dans l'ombre depuis des années éclatait au grand jour et bouleversait la cour, elle entra dans de furieux déchaînements et monta sur le champ une cabale pour me perdre. La cabale échoua. Le roi, après avoir écouté patiemment le récit de mes turpitudes, y mit fin d'un mot, un jour que Madame de Montespan l'entretenait longuement de mes vilainies passées. « Quelle apparence, madame, lui dit-il d'un ton las, que vous eussiez choisi une courtisane pour gouverner vos enfants. N'allons pas, je vous prie, chercher plus loin des vérités qui vous nuiraient plus qu'à Madame de Maintenon. » Admise dans l'antichambre de la gloire et du bonheur, je demeurais indifférente à toutes ces intrigues. La proximité du but que je m'étais donné m'ôtait mes derniers scrupules. Repu d'honneur et de tendresse, ma conscience me laissait étrangement en repos. J'aimais le plus grand roi de la chrétienté, le roi de Nimègue, qui venait d'imposer sa paix à l'Europe, d'y gagner Valenciennes, Cambrai, Fribourg et la Franche-Comté, et d'asservir la Lorraine. Un roi qui imposait ses lois jusque dans la Suède et le Brandebourg, et qui trônait sur l'univers moins par la force que par l'admiration. Je l'aimais d'un amour timide, tout pétri d'estime et de crainte, où le sentiment de ma dépendance se mêlait à l'éblouissement de la reconnaissance. Je l'aimais dans la révérence et le mystère qu'on doit aux dieux. Je l'aimais enfin, sans retenue, parce que je m'en croyais aimée. Je m'abandonnais sans contrainte aux fêtes, aux divertissements et à tous les plaisirs de la cour, dont ma haute position auprès de la dauphine me permettait de jouir plus librement que par le passé. La paix, gagnée après 6 ans d'une guerre sans merci, rendait ses plaisirs plus vifs et faisait des châteaux du roi des palais enchantés. Les bals succédaient aux comédies et les opéras aux parades. On passait sans cesse d'un lieu à l'autre. Saint-Cloud en mars, Saint-Germain en avril, Versailles en juin, Chambord en août, Fontainebleau en septembre. Et chaque fois, c'était un spectacle merveilleux de voir le roi sortir avec ses gardes du corps, ses carrosses, ses chevaux, ses courtisans, ses valets. Une multitude de gens en confusion courant autour de lui. Dans tous les lieux où nous allions, l'abondance le disputait à la magnificence. À l'heure où le roi traversait ses salons, on s'empressait sur son passage, les gentilshommes jouant des coudes pour l'apercevoir et en être aperçus, les dames se montant sur les pieds pour gagner le premier rang et s'entendre dire de sa bouche quelques bagatelles dont elle serait enchantée pour toute l'année. « Le rose vous sied divinement bien, ma cousine. « Madame, je suis bien aise de vous voir. Avez-vous visité mes jardins, mademoiselle ?» Quand déjà la vie des petits a si peu de prix, il ne faut point s'ébahir si les devins et les empoisonneurs, qui savent les moyens de tuer les grands sans bruit ni violence, voient reconnaître à leur juste valeur les mérites de leur art. On cherchait auprès d'eux, en alternance ou tout à la fois, les secrets de l'amour et ceux de la mort. Au commencement de l'an 1679, on ouvrit à l'arsenal une chambre ardente pour connaître du cas de plusieurs devineresses et artistes en poison. Ceux qui parurent devant ce tribunal n'étaient dans les commencements que Percy et Menu Frottin, prêtres défroqués, laquais, commis marchands, filles de mauvaise vie, alchimistes en cave, sibylles de faubourg. On y vit ensuite avec plus de surprise quelques femmes de magistrats et des bourgeoises bien rentées. Puis, par cercles successifs, les révélations que lâchaient tous ces misérables atteignirent la cour. Poudre d'amour ou poudre de succession, on sut bientôt que les sorciers en fabriquaient pour les personnes de qualité. Ils comptaient parmi leurs pratiques la belle comtesse de Soissons, la jeune duchesse de Bouillon, Madame de Vivonne, propre belle-sœur de Madame de Montespan, Madame de Polignac, Madame de Gramont, le maréchal de Luxembourg et quelques moindres. Tout ce monde s'entre-assassinait gaiement depuis des années sur fond de crapauds, d'alambics à la lueur des bougies noires. Thank you. Ces 3 ou 4 années qui séparent la disgrâce de Madame de Montespan de la mort de la reine restent dans mon souvenir comme des années de joie. Le roi m'aimait et me le prouvait chaque jour plus galamment. À Versailles, où la cour s'installa pour de bon, en 1682, le roi me donna au premier étage un nouvel appartement. 2 antichambres, une chambre et un grand cabinet, le tout de plein pied avec le sien et ouvrant comme celui-ci sur l'escalier de marbre. Il n'avait à traverser que sa salle des gardes et un vestibule qui nous était commun pour être chez moi. La reine même n'était pas plus près du soleil que je ne l'étais. Je recevais mes amis étendus sur la courte pointe d'un lit de 9 pieds de haut, tendu de damas or et vert, 4 bouquets de plumes blanches et leurs aigrettes en marquaient les 4 coins. De lourdes franges d'or bordaient les rideaux cramoisis. Je garde en ma mémoire de bien doux moments, tels certains soirs de 1674 quand le roi, dans le demi-jour d'une fin d'après-midi, jouait doucement de la guitare et qu'assis à ses pieds sur le parquet, je berçais ses enfants. La mort de la reine le 31 juillet 1683, à l'âge de 43 ans, me plongea dans l'affliction la plus sincère. Je l'aimais bien. Au bout de quelque temps, à la cour, on parla vite du remariage du roi. On suggérait quelques princesses allemandes, une princesse de Toscane et plus souvent encore l'infante du Portugal. Tout ceci m'affligeait et je songeais à me retirer chez moi à Maintenon. Un des premiers jours de septembre, comme le roi m'avait mené à la promenade avec lui et que nous nous étions séparés du gros de la cour, « Savez-vous bien, me dit-il, que vous m'avez persuadé, ma chère. Mon affaire est résolue, je me remarie. » Nous marchions au bord de l'étang des Carpes, d'où la vue sur la cour des fontaines est si jolie. Mes yeux s'emplirent de larmes en considérant cette perspective charmante que je pensais voir pour la dernière fois. « Vous ne me dites rien, reprit-il en me regardant au visage. Je ne pus que secouer la tête. » « Vous ne me demandez pas avec qui ?»« Si, » fis-je d'une voix étranglée. Chez tout autre que lui, j'aurais vu la malice, mais au plus fort même du badinage, le roi n'avait jamais l'air de plaisanter. « Eh bien, » fit-il gravement, « j'épouse Françoise d'Aubigné. » J'eus le cœur meurtri de douleur parce que je crus la plus cruelle des moqueries. « Qu'avez-vous, madame, vous vous trouvez mal ? Ce n'est rien, sire, des vapeurs. » Fort alarmé de ce malaise dont toute la cour bruissait déjà, le roi vint à mon chevet. Je vis alors avec stupeur qu'il ne se moquait pas. J'en fus si confondu que je pensais me trouver mal de rechef. En homme habitué à commander, à ne point voir ses raisons révoquées en doute, il me dit qu'il m'épousait car il ne voyait point d'autre manière pour me garder, que de toutes les façons l'avenir de la dynastie était assez assuré par son fils et les 2 petits-fils que la dauphine venait de lui donner coup sur coup. Selon Dieu et selon les consciences, enfin, il n'y avait rien à redire à ce mariage. Mais selon le monde, sire, le plus grand roi de la terre épousait la veuve de Monsieur Scarron ? Ah, vous parlez comme Monsieur de Louvois, me dit-il. Je vous répondrai donc comme à lui. Selon le monde, c'est moi qui fais et défais les noblesses. On est toujours assez bien né quand on est distingué par moi. Je nageais dans le songe et flottais dans la béatitude. À peine si je sentais encore mes pieds toucher la terre, le roi ne partageait pas cette extase et trouvait notre mariage si naturel que je n'osais pas lui représenter ce qu'il avait d'extraordinaire. Il ne manquait à la perfection de mon bonheur que d'en pouvoir communiquer la nouvelle à Monsieur de Villarceau. « Vous rêvez, Françoise, un Villarceau épousait Madame Scarron ?» Ce mot m'était si bien resté dans le cœur que c'était à peine assez du geste d'un roi pour l'en arracher. Fontainebleau se prêtant mal à une célébration secrète, le roi décida qu'on ferait le mariage dès la première nuit de notre retour à Versailles, où il était aisé de se rendre à la chapelle par son appartement. Ce fut donc dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 octobre 1683, dans l'ancienne chapelle du château, que l'archevêque de Paris unit, en présence du père Lachaise, de Bontemps et de Montchevreuil, le roi Louis XIV à Françoise d'Aubigné. Pour moi, je crois que je n'y étais pas aussi peu. Dans l'obscurité de la chapelle, qu'éclairaient seulement les 2 grands flambeaux de l'autel, je ne vis pas à qui je donnais la main. Le bon Montchevreuil, qui me servait de témoin, me dit quelque chose, mais je ne sus pas quoi. Je n'entendis pas le roi répondre aux questions de l'archevêque. Je ne m'entendis pas moi-même consentir à mon élévation. Je ne repris mes esprits qu'autour de la Nius Dei, où je me dis tout à coup que je ne pourrais pas monter plus haut. Je me voulus une épouse commune qui ne s'attache à rien qu'à divertir son mari et à gouverner sa famille, prenant le discret emblème d'une lanterne pour répondre au soleil triomphant de mon époux. Je choisis dans ce temps-là une devise qui disait tout mon programme. Je ne brille que pour lui. Marie-France Guimard-Roche a été très heureuse de vous retrouver à Versailles et y reviendra avec vous pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Émilie Glory dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.